Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 26e épisode de Popol. Et pour ce 26e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Rémy-Leleu. Bonjour Raphaël.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Écoute, je vais bien, comme un dimanche de marche pour le climat.
C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Probablement, qu'en dire? Donc, j'ai 29 ans, je suis conseillère de Paris du parti Europe Écologie Les Verts et Les Vertes. Et donc, je suis militante écoféministe. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ce sont déjà de beaux engagements. Bravo. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir Anaïs Saïdan. Bonjour Anaïs.
Bonjour Léa, bonjour Raphaël.
Comment vas-tu?
Bah, très bien, un peu pareil que vous, comme un dimanche matin où il se passe plein de choses.
C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît?
Alors moi, j'ai 33 ans et je suis enseignante de français au collège en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et je milite pour une éducation moins sexiste, plus sexiste et plus féministe.
Super, merci beaucoup Anaïs. Je précise aussi que nous devions enregistrer avec Camille Ménard, mais malheureusement Camille a appris une mauvaise nouvelle qui l'empêche de se joindre à nous pour cet enregistrement. Je tiens juste à dire qu'on pense très fort à elle et qu'on espère que tout ira bien. Nous allons aujourd'hui parler de l'appel pour les libertés et aussi de l'affaire Muselier. Et si ça vous convient, on va commencer par l'affaire Muselier. Est-ce que ça vous va?
Oui, gardons le meilleur pour la fin.
Oui, c'est ça, exactement. Encore qu'elle est pas mal, l'affaire Muselier.
Oui, moi, c'est vrai.
Oui, c'est un bon tour de chauffe, néanmoins.
Ouais, c'est assez intéressant. Allez, c'est parti pour l'affaire Muselier. Les élections régionales et départementales devaient être l'occasion pour la droite de s'implanter davantage dans les territoires. En effet, bien que fortement affaibli au niveau national, le parti Les Républicains a toujours su se reposer sur les territoires en menant une politique que l'on pourrait appeler « de terrain ». Et cet atout pourrait permettre au parti de se renforcer au niveau local. Or, un récent incident est venu obscurcir cette perspective tout en semant le trouble au sein du parti de droite. Il s'agit de l'accord conclu entre LREM et LR. Cet accord prévoit le retrait de la liste LREM en PACA au profit de la liste LR menée par Renaud Muselier, président sortant de cette région. Cet événement a semé la zizanie au sein du parti. Après lui avoir retiré l'investiture et même envisagé de l'expulser du parti, LR a finalement décidé, mardi 4 mai, d'apporter son soutien à Renaud Muselier, ayant obtenu l'assurance qu'il n'y aurait ni ministre ni parlementaire La République En Marche sur sa liste. Ce retournement de situation a fait grincer des dents de nombreuses personnalités du parti présidentiel qui se voient ainsi écartées du scrutin. Cet événement nous rappelle qu'à quelques mois de la présidentielle, que le sport préféré de notre président est de diviser pour mieux régner. Mais est-ce que cette stratégie est vraiment pertinente et ne risque-t-elle pas, à terme, de se retourner contre lui? Anaïs, je te laisse la parole pour cette première question. Qu'en penses-tu?
Alors, moi, je pense que c'est risqué, cette histoire, parce que bon, on voit bien quand même que l'enjeu ici, il est aussi de savoir la place que ça laisse au Rassemblement national, parce que c'est un peu ça, dans les discours, en tout cas, qui sont menés par les partis de droite. L'idée est de les draguer officiellement, les draguer tout en les laissant à distance quand même. Donc, moi, je pense que ça craint fort leur histoire et qu'ils ne jouent pas forcément la sécurité, Macron et puis la République En Marche.
Ouais, non, effectivement. Est-ce que toi, tu es surprise de cette annonce quand même? Parce qu'on peut être surpris quand même de voir ça, non?
Bah moi, j'ai été surprise, mais j'ai surtout été surprise par la complexité de ces affaires de cour. En fait, ça m'a rappelé toutes les cabales qui avaient lieu dans les cours royales, très honnêtement. Et ce qui m'a surprise, c'est le manque de consistance en fait, dans les décisions qui sont prises politiquement avec un échéancier électoral si court, quoi. Donc, c'est plutôt dans cet aspect-là que je me suis interrogée.
Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et la réaction au sein de, enfin, au sein des LR, des poids lourds de LR, tu l'analyses comment, toi ?
Je pense que pour avoir regardé un petit peu leur réaction, enfin, elle est entendable, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on voit la peur, quoi. La peur de voir encore une marque de la dislocation des Républicains, de se voir manger le parti présidentiel, quoi. Enfin, en fait, c'est terrible, ça sent la peur, vraiment. Donc, ça m'amuse un petit peu, quand même. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils se débattent fort et que oui, c'est compliqué pour eux, là. Ils ont peur de voir acter la fin des Républicains, en
fait. Ouais, c'est sûr. Est-ce que Raphaël, toi, tu vois les choses de la même manière ? Je te laisse prendre la parole, s'il te plaît.
Alors, cette histoire, je la trouve, en réalité, extrêmement révélatrice. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on y a passé autant de temps dans les médias. Moi, j'y vois au moins trois choses. Déjà, l'avènement de Macron au pouvoir, de La République En Marche, il y a eu une tentative de nous faire croire que c'était le nouveau monde. Oh, c'est le ping-pong politique. Ça y est, le centre existe en France. Ouais, ben, le nouveau monde ressemble quand même beaucoup, beaucoup très fort à l'ancien, y compris du point de vue des méthodes. Et ne serait-ce que du point de vue institutionnel, j'avais trouvé ça extrêmement choquant qu'il y ait une intervention du Premier ministre en la matière. En fait, on parle des accords entre deux partis pour des élections régionales. On est en pleine crise sanitaire. Il y a énormément de collectivités locales qui essayent désespérément d'avoir des retours du gouvernement pour gérer la crise du Covid, y compris parce que ce sont les collectivités locales qui avancent l'argent et que ça met des régions, ça met des villes dans de grandes situations de précarité financière. Et pendant ce temps-là, on a Castex, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller faire des annonces sur une alliance LR-LREM en PACA. Enfin, donc déjà, ça, nouveau monde, ancien monde, enfin, c'est bon, on arrête de se foutre de nous, l'illusion est terminée. Après, je trouve qu'il y a quand même une énorme arnaque, en fait, sur l'articulation entre l'échelon local, en l'occurrence régional, et l'échelon national. On a l'impression que les deux formations politiques, on est censé oublier ce qu'elles font tout le reste de l'année, parce que là, on parle des élections régionales. Et en fait, on est... Moi, dans le cadre de ma délégation à Paris Centre, je suis en charge notamment de la citoyenneté, on est en train d'essayer d'organiser les élections régionales. Et on craint d'être face à des taux d'abstention records. Et vraiment, c'est compliqué de faire vivre cette élection, de faire vivre cette campagne, de rappeler aux gens quels sont les enjeux des élections régionales. Et en fait, on vient de se faire bouffer une semaine et demie de débat là-dessus parce que LR et LREM font mumuse en PACA. Donc pareil, je trouve ça totalement inconscient de leur part. Et la dernière chose, je ne sais pas si c'est la plus grave ou pas, c'est aussi la fin d'une certaine forme d'illusion sur la cohérence de la droite au sens large, et j'englobe clairement LREM là-dedans, comme si les idées ne comptaient pas. Et pourtant, dans leur discours, on a vu poindre que toutes les frontières étaient franchies. Enfin, LREM a voulu nous faire croire au centre, mais en fait, ça ne les dérange pas du tout de s'allier avec la droite. La droite a quand même dit la même semaine que ce qui l'a distingué de l'extrême droite, c'était la capacité de gouverner. Enfin, vraiment, et on en parlera probablement après avec l'appel qu'on a signé, mais j'ai l'impression que toutes les digues sont tombées et que du point de vue des idées, on n'est pas sur, on n'est pas uniquement sur de la dérive, quoi. Enfin, ces gens-là ont choisi leur camp.
Ouais, c'est clair. Mais à qui profite le crime, d'après toi ?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Je sais à qui il ne profite pas. Je pense que tout ça va bien se faire sur le dos des électeurs et des électrices de PACA. Et à qui profite le crime ? Ma grande crainte, c'est que ça profite à l'extrême droite, à la vraie. Et c'est pour ça que je trouve cette séquence d'autant plus irresponsable. Enfin, ça marque l'échec absolu de La République en marche, je trouve, tant sur sa construction territoriale que sur en fait, son absence de cohérence idéologique. Et ça illustre assez bien le danger auquel on fait face aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr. Ça montre effectivement que finalement, la colonne vertébrale et idéologique de La République en marche, c'est quand même pas très solide. C'est vrai que le ralliement d'un certain nombre de personnalités de droite et de La République en marche et leur rapprochement est quand même assez parlant. Et le nini d'Emmanuel Macron, c'est sûr qu'on se rend compte que c'était quand même globalement une vaste blague. Ça, c'est clair. Anaïs, je te laisse peut-être rajouter un petit mot sur cette question, s'il te plaît.
Oui, en fait, il y a quelque chose là avec lequel je suis tout à fait d'accord qui a été dit récemment, c'est cette histoire d'irresponsabilité. Tu l'as bien dit, Raphaël, comme elle se décline à divers niveaux et en fait de manière hyper globale. Et je ne suis pas sûre en fait que ça... En fait, ce qui est, à mon sens, ce qui est ennuyeux là-dedans, c'est que comme c'est médiatisé de manière ponctuelle et de manière anecdotique, enfin longue mais anecdotique, en fait, on ramène effectivement cette question des idées à l'anecdote en mettant sur le devant de la scène des choses qui font diversion sur des problématiques actuelles qui, justement, ramènent aux idées. C'est-à-dire que si on questionnait des questions de fond à partir de l'intervention de Castex qui veut faire oublier tout ce qui se passe par ailleurs de bien plus important et inquiétant. On pourrait parler d'idées et effectivement, je pense que les comptes seraient vite vus et ce serait assez rapidement plié puisque c'est globalement les techniques de ninja dans sa communication qui consiste à faire des écrans de fumée assez réguliers et c'est d'une indécence terrible en fait cette guéguerre intestine au sein d'une droite censée être modérée mais qui n'a plus grand chose de modéré hein, parce que même les positions de La République en marche sont quand même bien problématiques à de nombreux égards donc je crois que là quand même il y a une enfin il y a à la fois une posture du gouvernement de vouloir appeler à la responsabilité de chacun, et en plus ça résonne très fort en temps d'élection, puisque c'est une responsabilité que de voter, tout en ne nous donnant pas les moyens de mener à bien cette responsabilité. Et donc en fait, la boucle est bouclée, c'est un sophisme. Le peuple largement méprisé et considéré comme irresponsable devient effectivement irresponsable, puisqu'on ne lui permet pas d'exprimer en quoi... sa responsabilité pourrait être engagée. Donc je suis très pessimiste quant à cette affaire et je crains qu'effectivement ce scrutin soit très marqué par l'abstentionnisme et qu'on en paye les conséquences assez rapidement.
Ouais, c'est sûr. Et dernière question peut-être sur cette affaire. Raphaël, est-ce que tu penses que ça peut avoir des répercussions pour la gauche ?
En fait, des répercussions dans le jeu politique, ça peut toujours en avoir, parce qu'on fait des élections pour présenter son projet, pour présenter ses idées, pour essayer d'obtenir des élus et d'être en capacité d'implémenter les politiques publiques qu'on appelle de nos voeux. Et forcément, les gens face à qui tu te présentes, ça joue. Mais au-delà de l'élection en PACA, pour moi, ça doit servir d'électrochoc pour la gauche et l'écologie. Parce qu'on sait très bien que tu évoquais le nini, je crois qu'il y a encore autre chose qui est en train de se jouer. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez ferme dans ma réflexion. C'est toutes ces personnes qui ont voté Macron pour faire barrage à l'extrême droite et qui me demandaient, mais comment tu peux imaginer faire pareil en 2022? Bon, déjà, la première réponse, c'est qu'on essaye de se battre pour faire en sorte que le second tour, ça ne soit pas Le Pen-Macron. Et puis, moi, j'avais toujours dit, mais en fait, Macron-Le Pen, ça n'est pas la même chose et je ferai toujours barrage. Ça, je ne le remets pas en cause, hein, le fait de dire que je voterai, j'espère que j'aurai toujours une personne pour qui voter plutôt que Marine Le Pen. Mais par contre, quand on te dit mais le barrage n'est plus effectif, je trouve que ça devrait d'autant plus nous faire cet électrochoc de dire « Ok, là, il faut qu'on se mette au boulot parce qu'on ne peut pas laisser ça arriver une nouvelle fois. C'est trop dangereux. »
Ouais, c'est clair. Anaïs, tu partages cet avis ?
Oui, tout à fait. Et je partage aussi le trouble qu'il y a derrière cette question de « qu'est-ce qu'on fait, en fait ?» C'est-à-dire que moi, je me souviens... la dernière élection présidentielle m'avait projetée dans la frustration qui avait été la mienne quand adolescente. Il y avait eu Chirac et Le Pen, père. Et que j'étais vraiment décontenancée. Je me disais, mais comment on va faire? Et je me dis, bon, bah, près de 20 ans plus tard, c'est la même cam. Et en fait, surtout sur le fait que, bon, Macron, maintenant, on sait à qui on a affaire, parce que c'est vrai qu'il a été élu sur une glissade, en quelque sorte.
Sur un malentendu, on peut le dire.
Sur un énorme malentendu. Il a oublié, dès son investiture, avec cet instant d'une grandiloquence incroyable, sa lente marche vers le podium qui aurait dû alerter tout le monde, hein, mais je pense que, enfin moi en tout cas, j'étais dans une espèce de soulagement qu'une fois encore, Marine ne soit pas un sujet pour là maintenant tout de suite. Là par contre, enfin moi clairement, je vois plus la différence. Donc si ça devait être, enfin moi il n'y aurait pas de mini, ce serait une défaite en fait. J'aurais plus du tout peur de voter blanc et de ne pas choisir, parce que pour moi, Macron se dirige clairement dans quelque chose qui ressemble à du fascisme, c'est terrible ce qu'il est déjà en train de faire, et ça ressemble à beaucoup de choses que Marine Le Pen essaierait de mettre en place, j'imagine. Donc, c'est inquiétant.
Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Moi je me souviens quand même de. Et pareil, j'étais ado quand ça s'est passé, le deuxième tour Chirac-Le Pen. Et je me souviens d'avoir eu le réflexe lorsqu'il y a eu l'entre-deux tours là, en 2017, après avoir écouté le discours de Macron pendant l'entre-deux tours, d'aller écouter en fait le discours de Chirac en 2002 pendant l'entre-deux tours. On était sur un discours de gravité absolue. Chirac, il était. Complètement dépité d'être face à Le Pen. On était sur un discours qui était très inquiétant, où il prenait vraiment en compte la mesure du phénomène, quoi, l'ampleur du phénomène, ce que ça signifiait. En 2017, on était plus sur un discours de victoire, avec une prise en compte beaucoup moins importante du fait que finalement il était face à ce qui représente. À quelqu'un qui représente en France la pire idéologie, en somme. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Ça, c'est sûr. Et c'est pas forcément très, comme tu le dis, et je suis d'accord avec toi, Anaïs, c'est pas forcément un très, très bon signal pour la suite des événements, malheureusement. Et ce type de politiques qui sont menées, etc., ne font que, effectivement... un peu ouvrir la voie à des abus, enfin à des politiques davantage liberticides, etc. Et ça nous fait une très belle transition pour la suite. Donc sans plus attendre, on va parler du deuxième thème de la journée, si ça ne vous dérange pas. Je voulais qu'on parle ensemble de l'appel pour les libertés contre les idées d'extrême droite. C'est parti, ça vous va? On enchaîne?
Parfait. Vous
avez autre chose? Ouais. Ok, super, merci. Plusieurs figures de la gauche politique, syndicale et culturelle ont appelé ce mardi 4 mai à une marche des libertés pour dire non à l'extrême droite dans une tribune collective publiée dans Libération. Les signataires appellent à une grande manifestation au printemps 2021 pour dire non à l'extrême droite, à ces idées qui se propagent jusqu'au gouvernement et défendent nos libertés individuelles et collectives. C'était une citation. Ils critiquent également l'action du gouvernement en soulignant la mise en place et la multiplication des politiques sécuritaires, liberticides et antisociales. Les membres du gouvernement n'ont pas réagi à cet appel, mais cette démarche pourrait peut-être devenir le socle commun de l'union de la gauche tant attendue. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous surprise de l'absence de réaction du gouvernement ? Et pensez-vous que ce texte peut effectivement jeter les bases d'une union entre les principales forces de gauche pour 2022 ? Et je vais te donner la parole à toi, Raphaël, puisque tu es toi-même signataire de cet appel.
Oui, merci Léa et merci de parler de cet appel. Pour tout de suite préciser quelque chose, parce que je trouve que ce n'est pas un point anodin, il n'y a pas que des signataires de gauche telle qu'on pourrait la définir, d'une part. Puis je pense que c'est important de préciser de gauche et écologiste, ou écologiste et de gauche, peu m'importe, parce que par exemple, tu as Esther Benbassa, tu as Sandrine Rousseau, tu as Éric Piolle. Donc il y a aussi quelque chose d'important pour moi dans l'ordre de nos valeurs écolo, qui est de dire que l'écologie, c'est aussi dans son corpus fondamental la lutte contre l'extrême droite. Est-ce que ça peut être une base d'union ? En fait, c'est pas l'objectif. Désolée de le dire aussi de manière aussi cash, mais l'union de la gauche, de l'écologie et de la gauche, on en soupe un peu tous les matins. Et en fait, oui, c'est un enjeu extrêmement important, tel qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est important pour éviter Marine Le Pen et le Rassemblement National au pouvoir. C'est aussi important simplement pour nous-mêmes être au pouvoir et faire en sorte de présenter un autre projet de société, un autre projet pour notre économie, un autre projet pour nos services publics, un autre projet pour préserver notre écosystème dans son ensemble et lutter contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est quelque chose qui va se construire du point de vue des idées, du point de vue du militantisme, avec les partis, à côté des partis, et ça va être beaucoup plus large, c'est un travail beaucoup plus ambitieux que cet appel. Néanmoins, et c'est pour ça que je comprends la réflexion, la lutte contre l'extrême droite, ça fait partie de nos valeurs. Comme je disais, ça fait partie des valeurs fondamentales de l'écologie comme de la gauche, et c'est important de se le rappeler. C'est aussi important de voir, et c'est ce qu'on essaye de faire avec cet appel, quelle est l'actualité de la lutte contre l'extrême droite, quels sont les mécanismes de développement de l'idéologie d'extrême droite auxquels on fait face aujourd'hui, et comment on essaye de s'outiller, de se réarmer intellectuellement face à l'extrême droite. C'est notamment ce qu'on essaye de faire via l'Observatoire national contre les extrêmes droites, dont sont issus pas mal des signataires. Et je pense que c'était vraiment, pour nous, d'une importance vitale de décrire ce qui est en train de se passer. Parce que, et c'est tout le sens même du titre de l'appel, la première manière de lutter contre l'extrême droite, c'est de défendre nos libertés, de défendre nos libertés publiques, de défendre nos libertés fondamentales, y compris notre liberté à ne pas être discriminée, violentée en raison de notre sexe, de notre orientation sexuelle ou la couleur de notre peau. Et ce qui est assez effrayant, c'est que ces derniers mois et ces dernières années, la défense de nos libertés s'est aussi exprimée très concrètement dans l'opposition à des projets de ce gouvernement. Et on voit bien donc que cette digue dont on parlait tout à l'heure, ce barrage face à l'extrême droite, il ne tient pas parce qu'on est face à une majorité présidentielle qui met en place des politiques liberticides, que ça soit dans la loi de liberté, sécurité globale, tout ça. La loi sécurité globale, tout court d'ailleurs, ils nous ont quand même pas fait l'affront de mettre le mot liberté dedans. La stratégie du maintien de l'ordre telle qu'on l'a vue en manifestation depuis plusieurs années, ou même des velléités de flicage des personnes au chômage, enfin vraiment un bon programme de droite dure et certaines manipulations, certaines tenues de discours qui n'ont pas grand-chose à envier à l'extrême droite. D'ailleurs, l'extrême droite ne se théorise pas vraiment comme opposition à ce gouvernement, y compris parce qu'il y a une reprise des éléments de langage. Moi, j'ai été atterrée de voir, mais que dans le plus grand des calmes, on avait des membres du gouvernement, on avait des membres de cette majorité présidentielle qui reprenaient les termes, par exemple, d'ensauvagement ou d'islamo-gauchisme. Donc, c'est pas qu'ils sont en train de perdre la bataille des idées et la bataille politique, c'est qu'en fait, ils ne la mènent pas. Donc c'est à nous de rappeler qu'elle existe, qu'elle est toujours d'une brûlante actualité et qu'il faut se donner les moyens de la mener parce que sinon on va être dans une situation extrêmement dangereuse encore une fois.
Ouais, c'est clair, c'est bien résumé en effet. Anaïs, toi tu l'analyses comment cet appel et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait effectivement permettre en tout cas un socle idéologique sur la base de la lutte contre l'extrême droite de rapprocher des forces politiques?
Déjà, merci pour cet appel. Merci pour ce texte. Merci de l'avoir signé et d'avoir commencé à organiser tout ça parce que, alors, dans mon métier, partiellement, c'est compliqué d'envisager d'être enseignant et de pas comprendre qu'on a un métier politique. Parce que, en fait, on voit à quel point les politiques, en s'appliquant, elles ont un effet immédiat sur nos élèves et sur leur vie quotidienne. Mais bon, ça, c'est une chose. Et moi, mon angoisse n'a fait que croître, en fait, depuis quasiment le début du quinquennat de M. Macron. Et effectivement, assez souvent, se pose la question d'une espèce de mort de la gauche comme on a pu la connaître fut un temps et d'une éventuelle régénération sous une autre forme mais qui pour l'instant paraît assez peu organisée. Donc je suis pas voyante mais j'espère que ça amènera au moins un courant organisé qui permettrait de réagir rapidement et par les urnes, puisque là, l'échéance, elle arrive. Donc, je l'espère très fortement. Est-ce que ça pourrait être le cas? J'arrive pas à être aussi optimiste, parce que si jusqu'à présent, la gauche n'a pas réussi à se remettre de ses blessures récentes, se réorganiser et à s'approprier aussi des luttes qui ont un souffle là assez puissant quand même, enfin on le voit, c'est partout et c'est tout le temps, et c'est, enfin, s'il y a un niveau de répression aussi fort, ça veut bien dire que c'est effrayant pour la partie adverse, enfin j'ose l'espérer. Il y a une dérive autoritaire certes, mais je pense que malgré tout c'est que ça doit leur faire peur en fait, ces mouvements massifs, cette généralisation jusque dans la pensée, enfin, ce moment-là de l'islamo-gauchisme, moi, pour moi, ça a marqué quand même un tournant. Parce que condamner en récupérant une rhétorique quand même de l'extrême droite ouvertement, effectivement, comme tu le disais, Raphaël, en toute détente, et demander à ce qu'il y ait un empêchement de la pensée. Moi, ça m'a sidérée, ça m'a attristée, ça m'a mise en colère. J'imagine que je ne suis pas du tout la seule, mais je trouve que ça, c'est un tournant. Quand on s'attaque à la pensée en France, quand on s'attaque à la recherche, que l'on muselle littéralement une partie de la recherche et de la pensée, je crois qu'il est temps d'agir. Et sans parler du reste, hein, bien évidemment, mais pour moi, ça, c'était un peu le dernier rempart. Et là, il est clairement franchi, donc il est temps de, ouais, effectivement, que ça s'organise. Donc j'espère vraiment que on va oublier dans certains partis d'extrême gauche, de gauche, les guéguerres intestines que l'on s'amuse à voir à droite, et qu'on va réussir à fonder quelque chose qui va nous permettre de vraiment faire front pour au moins 2022.
Ouais, c'est clair. En tout cas, il y a une véritable attente, j'ai le sentiment, de la part des électrices et des électeurs. Enfin, en tout cas, moi, par exemple, c'est mon cas. Du coup, on digresse un peu sur la question de l'union des gauches, qui est quelque chose de vraisemblablement souhaitable. Mais concrètement, Raphaël, est-ce que toi, tu imagines que ça peut aboutir?
Oui, ça peut aboutir. Et en tout cas, on y travaille. J'ai l'impression de militer pour tous les jours. Après, c'est la question de comment elle se fait, cette union. Et je pense qu'elle se fait par une production d'idées. Parce qu'on ne peut pas continuer cette cette dérive de la pensée et son empêchement aussi. Tu as parfaitement raison, Anaïs, merci de le dire. Et il faut qu'on se retrouve en fait des pensées communes, en fait, des choses qu'on sait avoir à partager du point de vue intellectuel et militant, et des choses que l'on sait devoir combattre ensemble. Et ça, je vais le dire clairement aussi, hein, j'ai été extrêmement déçue de la part du Parti Socialiste ces derniers mois. Et je ne suis même pas sur l'aspect, le bilan du quinquennat Hollande, les alliances ou pas durant les élections, ou même des désaccords de projets qu'on peut avoir, y compris à la ville de Paris. Non, ce qui m'a déçue, c'est que j'ai eu l'impression de voir comme parfois des renoncements, des choses qui me semblaient acquises dans cette partie-là de la gauche, que je connais très bien pour y avoir été il y a quelques années aussi. Et quand j'ai vu, par exemple, les réactions sur les réunions non mixtes, je me suis dit, purée, en fait, il faut vraiment se... J'aime pas trop cette expression parce que c'est le vocabulaire guerrier, mais en même temps, je la trouve très vraie, donc je l'utilise quand même. C'est cet aspect de se réarmer intellectuellement. Et ça, je crois que c'est un boulot assez urgent à faire. Et ensuite, sur comment faire cette union de la gauche et de l'écologie, donc il y a donc cette question intellectuelle de pensée commune, et je crois aussi profondément que ça se fait très concrètement dans les différentes luttes. C'est un peu aussi ce qui m'a conduite à l'écologie politique. C'est le fait de te dire, bah tiens, tu vois les mêmes personnes, les mêmes mouvements, toujours les mêmes, en manif avec toi, en rassemblement avec toi, à signer les mêmes pétitions, à signer les mêmes appels, à organiser les mêmes solidarités, y a peut-être un truc à aller voir de ce côté-là. Et je trouve que c'est important parce que c'est là qu'on va créer du lien, c'est là qu'on va se rappeler qu'on est là pour les mêmes choses, et c'est là aussi qu'on exprime toute la force de l'union et du collectif en allant soutenir des luttes, en allant soutenir des personnes de manière très concrète, en essayant de construire des rapports de choses pour... des rapports de force, pour tirer les choses dans le bon sens. Et après, du point de vue politique dans son acceptation la plus traditionnelle, de mon côté, je fais campagne pour une candidate écoféministe, écologiste et de gauche que je trouve fantastique, qui s'appelle Sandrine Rousseau. Et je pense qu'avec des personnalités pareilles qui n'ont pas peur d'aller discuter, débattre, y compris d'acter les désaccords, mais qui essayent de voir quelle est notre responsabilité et de vraiment en prendre sa part, ça me donne de l'espoir. En tout cas, ça fait pas mal de boulot.
Ouais, c'est sûr. Sandrine, d'ailleurs, qu'on va bientôt recevoir sur Popol. J'annonce petit teaser. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant d'avoir vos points de vue sur ces deux thèmes. Est-ce qu'on passerait pas à vos actus? Est-ce que vous voulez nous parler de ce qui a retenu votre attention récemment? Et on va commencer avec toi, Anaïs, s'il te plaît. De quoi voulais-tu nous parler?
Alors, moi, je voulais vous parler de lecture. En fait, cette année, j'ai lu beaucoup, justement, on parlait de se réarmer intellectuellement, et j'ai eu besoin de lire beaucoup d'ouvrages sur la pensée féministe de manière disparate. J'ai lu un peu tout, mais il y a deux choses, en fait, qui sont revenues. Et alors, ça paraît très lointain, j'ai dû retravailler La princesse de Clèves, qu'on ne présente plus, et j'ai lu très récemment, là, je n'ai même pas terminé la postface, Le Scum Manifesto de Valérie Solanas, parce que ça m'a intriguée, cet ouvrage ouvertement misandre. Surtout, bon, il y a les circonstances, bien sûr, qui le vendent. Donc, Le Scum Manifesto a été écrit par Valérie Solanas, qui donc est célèbre pour avoir tiré sur Andy Warhol, entre autres choses. Et elle a publié ce petit manifeste par la taille, mais non par la pensée. Elle l'a publié en 67. En lisant notamment tout ce qu'il y a autour de la réception de cet ouvrage, bon, dans lequel elle prône globalement, elle explique à quel point les hommes sont inutiles, et je pèse mes mots parce qu'elle est bien crue dans ses propos, Et donc, elle monte une espèce d'utopie. Enfin, je n'ai pas envie de dire utopie parce que ce n'est pas une utopie, mais une utopie au sens rabelaisien du terme. Voilà, elle propose les bases d'une société qui serait féminine et féministe. Et en fait, l'essentiel de la réception de cet ouvrage, ça a été la disqualification. On l'a lu, et même des féministes hein, le lisent avec distance, second degré, en disant que c'est extrêmement drôle. Alors oui, c'est drôle, mais en fait, pas tant que ça. Et donc, je me suis dit, voilà, bon, parce que c'est cru, parce que c'est violent, visiblement, on considère que c'est du second degré. Alors que bon... des hommes qui font la promotion dans des ouvrages de fiction ou dans des essais de la violence vis-à-vis des femmes, ça n'est jamais disqualifié et présenté comme étant dit au second degré. Et c'est d'ailleurs intéressant de savoir que l'édition précédant la dernière a été postfacée par Michel Houellebecq, qui lui, bon... fait preuve d'une grande condescendance et encore une fois, c'est un euphémisme vis-à-vis de l'ouvrage de Valérie Solanas. Et ça a résonné avec La Princesse de Clèves parce que je me suis rendu compte, par ma propre expérience et celle que je continue d'en faire parce que c'est un ouvrage au programme du lycée, que les précieuses sont présentées comme ce groupe d'oisives qui ont produit certes des ouvrages intéressants parce que ça fait revue mondaine sur la vie de cour, mais c'est présenté globalement comme un mouvement annexe, quelque chose qui a vite été tué par la création de l'Académie française, notamment, alors qu'en réalité, c'est un ouvrage d'une modernité du point de vue de la relation amoureuse, des rapports de genre. C'est un ouvrage d'une terrible modernité. En fait, Madame de Lafayette met réellement sur un pied d'égalité le duc de Nemours et la princesse de Clèves, qui donc ont une relation amoureuse alors que, que la princesse de Clèves est mariée, mais qu'elle a été très claire sur le fait qu'elle n'aimerait jamais son mari et qu'il le savait donc en l'épousant. Et tout ça se déroule de manière très fine. Et les précieuses, Madame de Lafayette, on nous les présente comme ces femmes qui n'ont pas eu une vraie importance dans la littérature, alors qu'en réalité, elles en ont une, puisqu'elles ont été, et en cela, je recommande l'ouvrage de Eliane Viennot sur la masculinisation du langage, qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », et qui rappelle que la querelle des femmes a été un vrai sujet, et à quel point, en fait, dès l'instant où les femmes ont pris leur place en littérature, on les a silenciées, on leur a demandé de retourner à leur chiffon, et on les a empêchés surtout de produire leur propre littérature et leur propre pensée avec leurs propres règles, et on a mis ça dans un sous-genre de la littérature et dans un sous-courant de pensée. Et finalement, j'ai l'impression que c'est la même chose qui se joue avec cet ouvrage de Valérie Solanas, bien plus moderne. On disqualifie sa pensée parce qu'elle ne rentre pas dans les codes de ce qui se dit... de ce qui doit se faire lorsque une femme écrit et pense. Et je pense qu'il est urgent, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette question de l'islamo-gauchisme, on disqualifie les pensées qui sont aujourd'hui malheureusement considérées comme marginales. C'est-à-dire que l'histoire racontée, enfin pensée, pas racontée, mais pensée par des personnes racisées, de leur point de vue, elle est disqualifiée. Dès qu'on se réapproprie quelque chose qui nous appartient lorsqu'on est une minorité, la pensée mainstream le disqualifie d'emblée. Et je pense que c'est important d'être conscient de ça et justement de lutter contre en lisant des choses qui nous permettent à la fois de nous en rendre compte, mais aussi de ne plus participer à cette disqualification systématique des œuvres produites par des minorités pour elles-mêmes.
Merci beaucoup Anaïs, c'était effectivement très intéressant. Merci pour cette double fiche de lecture en quelque sorte. Merci beaucoup. Raphaël, toi de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît ?
Alors je voulais vous parler d'un sujet féministe, mais avant ça je rajoute une troisième fiche de lecture à la pile.
Yes, j'adore, vas-y.
Parce que tu m'as fait penser à pas mal de choses Anaïs, alors moi j'ai jamais lu ce comme manifesto. Bon, par contre, je crois qu'il reste quand même pas mal d'ouvrages décrivant des violences masculines au sens large et qu'on laisse passer, et peu importe que ça soit du premier au second degré. Je ne dis pas de toute façon qu'il ne faut plus décrire la réalité du monde dans les ouvrages, mais la question d'à quel moment ça relève de l'apologie ou de l'appel à la violence, ça reste une question très, très complexe. Et de mon côté, je vous conseille un livre qui s'appelle Le Pouvoir, qui est un livre assez récent, qui a été écrit par Naomi Alderman. Je crois qu'il a été publié en 2016. Et c'est une dystopie. C'est une dystopie qui a un relent féministe et en fait un truc très matriarcal. Et dans ce livre, qui marche en plus avec plusieurs couches, elle explique, elle illustre un renversement total du monde et la hiérarchie de pouvoir entre les femmes et les hommes. Et elle le fait, y compris en montrant quels sont les mécanismes de violence qui sont employés, les mécanismes de changement du langage ou de la mémoire. Et vraiment, c'est extrêmement intéressant, parce que autant il y a des choses qui sont un petit peu réjouissantes à l'idée de se dire, par exemple, que d'un coup, les femmes ne sont plus harcelées dans la rue. Et pour autant, des choses très dérangeantes quand on imagine que notre classe politique, qui est celle des femmes, pourrait aussi être dans le rôle des bourreaux. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, je vous le conseille. Et puis, c'est extrêmement bien écrit, ça se dévore. Mais ça n'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais vous parler de bourreaux, justement, et d'une actualité qui m'a mise particulièrement en colère cette semaine. Je pense que ça reste important qu'on se réapproprie notre colère, y compris en politique, et qui m'a beaucoup touchée aussi. Cette semaine, j'ai témoigné de violences conjugales dont j'ai été victime, et j'ai reçu plein de messages de soutien, et les gens ont été absolument formidables, à quelques trois exceptions près, et il va falloir encore déposer des plaintes, etc., etc., mais voilà. Et puis j'ai eu des soutiens aussi de personnes de La République En Marche, ce qui est plutôt sympa en fait, notamment qui est très sorore, qui est très... Enfin voilà, on dépasse aussi les clivages politiques en la matière. Puis j'étais un petit peu gênée quand même, parce que ces gens-là, j'avais envie de leur dire « Ok, mais bon, vous êtes au gouvernement, vous êtes député, enfin, il est où le milliard, quoi, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ?» Je me suis un petit peu retenue en me disant « Bon, on va acter d'abord la sororité et puis on reparlera plaidoyer ensuite. » Sauf qu'au milieu de tout ça, j'ai découvert, parce que des gens me l'ont envoyé sur Twitter, Jérôme Perra. Et alors, je ne sais pas, mesdames, si vous avez la chance de connaître Jérôme Perra.
Non.
Non, pas cette joie.
Eh bien, Jérôme Perra est tête de liste de La République En Marche pour les élections régionales en Dordogne. Alors, c'est-à-dire, pourquoi je m'intéresse aux têtes de liste de La République En Marche en Dordogne ? Il est également conseiller politique auprès de la direction générale de La République En Marche. Je ne sais plus comment ça marche exactement dans leur organigramme de parti Startup Nation, mais enfin, voilà, il a été promu récemment au sein de La République En Marche. Et bien, ce bon monsieur a été condamné pour violence conjugale. Alors, il a été condamné à une amende avec sursis. Il a été condamné en 2020. Et vraiment, ça me rend mais absolument furieuse. Quelle est la crédibilité, mais quelle est même la dignité de ces gens qui nous bassinent à longueur de temps en nous disant « Si, si, je vous jure, c'est une priorité, c'est une grande cause, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Si, si, je vous jure. » Alors, on nous enfume, hein, par ailleurs, sur les moyens qui sont donnés, sur la formation, sur les bracelets anti-rapprochement, sur les téléphones de grand danger. Ils nous enfument la gueule alors que pendant ce temps-là, ils sont en train de déconstruire de manière très mécanique tout ce qui a été fait par les associations depuis des années, également en les mettant sous pression, en coupant des financements. Alors voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Mais enfin, quelle crédibilité, quoi ! Quand on leur dit que l'un des principaux problèmes, c'est l'impunité, ils ont un mec tête de liste pour les élections régionales, toujours adhérent de leur parti, qui a même juste des promotions au sein de leur organisation politique, et le type a été condamné pour violence conjugale. Ok, ils ont un type accusé de viol, le ministre de l'Intérieur, donc on pourrait se dire qu'en effet, il n'y a pas ni dignité ni crédibilité, mais waouh ! Voilà, ouais, pardon. Je voulais juste passer un coup de gueule.
Ouais, non, mais tu fais bien. Et tu fais bien aussi d'avoir switché. Tu as bien fait aussi de switcher sur la partie plaidoyer sur cette question-là, parce que c'est fondamental. Et les discours sont bien beaux, mais effectivement, il faut pouvoir, faire preuve d'éléments concrets. Et tu peux nous rappeler le nom du mec en question, pardon ?
Alors, ce brave homme s'appelle Jérôme Perrin. Et enfin, okay. Moi, j'invite les gens à aller interpeller la République en marche là-dessus, quand même. Enfin, c'est... Ouais. C'est... En fait, au début, j'ai cru que c'était pas vrai. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible, quand même. Enfin, et puis là, ils peuvent même pas se cacher derrière le petit doigt de il faut attendre que la justice se passe parce que la présomption d'innocence. Le type est condamné, quoi. Mais ouais, pareil, fou. Dans le plus grand des calmes, ils se foutent de notre gueule.
Ouais, c'est quand même un peu border, ouais, effectivement, voire très border. Ouais, ouais.
Et puis, pardon, mais déjà, bravo et merci pour ton courage, Raphaël. Et c'est terrible parce que c'est tellement à tous les niveaux. Enfin, en fait, je sais pas, vraiment, j'arrive pas. Alors, peut-être que c'est de la naïveté, hein, mais je n'arrive pas à comprendre, j'ose imaginer ta colère. Et j'arrive toujours pas à comprendre, en fait, comment tout ça peut se répéter dans une détente incroyable et qu'on puisse en fait nous demander une forme de confiance vis-à-vis de ces manquements quand même répétés à une forme de cohérence. Enfin, je veux dire,
Et puis en plus ils nous disent mais franchement vous êtes trop en colère les meufs. Enfin vraiment oui, c'est... vous nuisez à votre cause là. Mais quel autre combat pourrait se faire piétiner ainsi sans qu'on ait foutu le feu à l'Élysée. Enfin vraiment moi je
Mais c'est ça. En fait, il y a une espèce de... Je pense qu'il y a une espèce... Enfin, il compte sur une espèce de... Enfin, sur le syndrome, un syndrome de Stockholm collectif, je ne sais pas, qui ferait qu'en fait, personne n'oserait et que... Mais c'est... Enfin, pour être confronté à des cas de violence sexuelle et sexiste de tous ordres de manière un peu quotidienne, par exemple, pour la protection de l'enfance, c'est aussi très compliqué. Nous, dans le milieu scolaire... Très peu de gens sont formés. Il y a un excellent ouvrage d'ailleurs d'une sociologue canadienne qui s'appelle... c'est Gabrielle Richard qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Hétéro l'école » et j'avais eu la chance de l'entendre parler de son travail. C'est en 2018. Et elle expliquait comment en France, les politiques justement de prévention, elles sont complètement... ce sont des échecs et que les formations sont essentiellement de l'ordre de la volonté personnelle. Et moi, je le constate. On nous dit qu'on nous donne les moyens. Marlène Schiappa avait fait grand mot en disant à la rentrée 2018 justement que tout le monde aurait droit à l'éducation, machin. Mais en fait, nous, on est bloqués très facilement parce que structurellement, les choses ne sont pas faites pour. C'est-à-dire que quand on doit faire un signalement, par exemple, on a une assistante sociale pour 1500 élèves. Donc en fait, elle est sur plusieurs établissements, elle ne peut pas s'occuper de tout le monde, etc. Comme les enfants sont mineurs la plupart du temps, en tout cas en collège, on a besoin de l'accord des parents, mais s'ils sont les bourreaux, ça s'arrête là. On n'est pas du tout ou très mal formé. Le système est défaillant à ce niveau-là. Et en attendant, on fait des annonces publiques en disant que, encore une fois, on rejoint ce truc de ces causes nationales, etc. Mais en fait, quel que soit le bout par lequel on le prenne, ça ne fonctionne pas. Ça, rien n'est mis en place pour que ça marche, ce sont que des effets d'annonce dans une hypocrisie la plus totale et la plus ouverte et assumée. Et je sais pas, peut-être qu'ils attendent que justement on aille faire des choses.
Qu'on aille brûler l'Élysée, peut-être, oui, effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup Raphaël d'avoir d'insister sur ce point et merci aussi effectivement pour ton témoignage, c'est très important. C'était très important de le faire, je pense, pour beaucoup de femmes. Il faut rien lâcher, quoi, en fait. Tout simplement. En conclusion, j'ai envie de dire ça, quoi. Il faut vraiment rien lâcher et il faut se battre à fond. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos échanges et pour cet agréable moment. C'était Popol, merci de nous avoir écoutés.